Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et qu'on sort. L'année 2020 est en train de se terminer. Elle a fini auprès d'un beau feu de bois de cheminée à TLC en pay-per-view. Nous étions là, je suis Raphaël, mais la vie continue à la WWE. Nous sommes ici pour analyser le Monday Night Raw du 21 décembre 2020 et je suis avec celui qui est tout le temps près de la cheminée, mais pas trop près quand même. C'est l'ami Papy. Papy, est-ce que ça va? Tu es bien au chaud?
Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël. Oui, je suis au chaud, je vais tout cramer, je suis un gueudin. Méfiez-vous.
Méfions-nous de Papy, hein? On sait jamais, hein?
J'ai un ouf dans ma tête.
Ah là là, écoute, Papy, bah voilà, hein, je sais pas si vous les auditeurs, vous avez écouté cette review de TLC où nous étions deux, puis trois, puis quatre. Ah, c'est incroyable. Et on a parlé donc ces grands matchs des échelles, et puis des flammes, et puis des tables, et puis tout ça. Un très gros pay-per-view, hein, Papy?
Ah ouais, ça c'était intense. Et donc là, nous sommes déjà repartis dans notre pain quotidien du Monday Night Raw. Et combien de personnes nous serons? Suspense.
Ah, suspense. Mais en tout cas, ça... La WWE, c'est une leçon de vie. Hein. On peut gagner un soir, on peut tout perdre, mais le lendemain, il faut retourner bosser et c'est reparti. Donc, pas le temps de pavoiser pour certains, pas le temps de ruminer pour d'autres. En tout cas, on ouvre le show avec celle qui a déjà un petit peu volé le show à TLC, c'est Charlotte. Donc Charlotte, qui est de retour, voilà, Charlotte Flair. La reine, Madame Charlotte Flair, qui est la queen.
La patronne.
La patronne, ça se voit hein, que c'est la queen, ça, on... Et puis, bah voilà, la queen et la patronne est dans le Thunderdome. C'est sa première soirée au Thunderdome. Et bah voilà, première soirée, elle est direct championne. Alors, elle nous dit que voilà, elle a un peu, pendant 6 mois, regardé ce qui se passait. Et puis là, maintenant, elle est avec celle qui lui a demandé de revenir, son acolyte, son amie. Hein, et elle le dit, my friend, Asuka. Donc, Asuka arrive. Et Asuka, elle est toute contente parce qu'elle est double championne. Et alors, à ce moment-là, Charlotte lui dit, ouais, c'est vrai, double championne. D'ailleurs, à propos de ce titre féminin de Monday Night Raw, là, puis malheureusement, comme toujours, on va pas au bout de l'idée qui était assez alléchante. Ça, on attendra un peu, puisque bah, les anciennes championnes débarquent, Nia Jax et Shayna Baszler. Elles provoquent un peu les championnes, elles disent 2-3 conneries, je sais plus trop quoi. Et en ce moment, elles sont interrompues par Mandy Rose et Dana Brooke, très motivées elles aussi, qui viennent un peu moquer la perte de titre. Des ex-championnes. Tout ce petit monde se retrouve sur le ring et Charlotte Flair, qui est la queen, comme tu dis, qui est la patronne, eh ben, elle devient manageuse générale. Elle dit bah, je vois deux tag teams féminines là face à moi, eh ben, amenez-moi un arbitre et ça va faire un opener. Et du coup, eh ben, les arbitres ils obéissent à Charlotte Flair. Hein. Donc on a un match Dana Brooke et Mandy Rose contre Shayna Baszler, que Charlotte d'ailleurs botche le nom en disant Shayna Blazer. Je ne sais pas si elle a fait exprès, je ne pense pas. Et Nia Jax, donc un 2 contre 2. Un 2 contre 2 assez étonnant, puisqu'on a au début une belle phase de domination de Mandy Rose et Dana Brooke, avec à l'extérieur du ring, là, elles sautent sur Nia Jax, elles arrivent à prendre le dessus. Alors les deux championnes sont aux commentaires, elles sont en pleine forme, hein, elles sont hyper contentes. Alors Asuka, Charlotte, on les entend sourire quand elles parlent, elles sont contentes d'être championnes, elles sont contentes d'être amies, elles sont contentes d'être ensemble, elles sont contentes d'être là. Voilà, Charlotte dit à Dana, rappelle que Dana Brooke c'était sa protégée il y a très longtemps, donc il est content de l'avoir arrivé là, etc. Bref, Nia Jax reprend un petit peu la force, reprend un petit peu voilà, par la force la domination du match. Mandy Rose se met à surclasser Shayna Baszler en lui envoyant une souplesse, des coups de coude. Dana Brooke fait un splash, des kicks, elle fait même un senton bomb, Dana Brooke, mais Nia Jax empêche le pin de se faire. Et puis au final, Shayna Baszler coince Dana Brooke dans son Carafula Clutch là, et elle fait taper Dana Brooke. Les gagnantes, donc les anciennes championnes, en profitent pour bien invectiver les nouvelles championnes, mais elles n'auraient pas dû tourner le dos si vite au perdu du jour, puisque ben, Dana Brooke et Mandy Rose les font tomber à l'extérieur du ring et finissent la séquence au milieu du ring plutôt... plutôt dominante, voilà. Alors, on va sûrement avoir un peu de. On va laisser peut-être les championnes tranquilles un petit moment et on va faire en sorte qu'on dispute les challengers, là. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette ouverture de show féminine? Et puis, voilà, de cette Mandy Rose au top.
Et oui, au top de la forme. Alors, tiens, j'ai, J'ai profité pour récupérer les durées des matchs. Je sais que tu es friand de ce genre d'infos.
J'adore.
Et donc cet opener durait comme 12 minutes 50. Donc, un sacré opener pour des filles. Hein. C'est rare qu'on leur laisse autant de temps. Et j'ai trouvé que c'était pas si mal, en fait. On te dit, tu vois, un match Mandy Rose, Dana Brooke contre Shayna Baszler et Nia Jax. Sur le coup, tu frissonnes un peu. Et elles se sont pas si mal débrouillées. J'ai trouvé qu'elles étaient effectivement les deux blondes. Alors, je sais pas c'est quoi leur nom. Elles ont un nom de tag team maintenant, je l'ai oublié. Maintenant que
mais
tu me dis ça.
C'est Asuka qui leur a inventé un nom, là, je sais pas quoi, Impressive Sexy ou je sais plus quoi.
Ouais,
un
peu plus tard. Voilà, donc.
Fact-checking, les amis.
Fact-checker, mais tant que désormais, elles ont un petit nom sympathique.
Ouais, sexy, quelque chose. Blonde sexy, du 33.
Blonde sexy ou machin chouette. Ouais. Bref. Un
petit pseudo de Skyblog, là.
Voilà, c'est ça. Et c'est Blog Sexy 59.
Ouais.
Et du coup, elles se sont plutôt bien, bien défendues. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. C'est peut-être une rivalité qui va durer un peu. Et quelque chose que moi j'appelais de mes voeux, c'est que les divisions tactiques féminines puissent avoir plusieurs équipes et plusieurs challengers. Et c'est peut-être vers ça qu'on se dirige. Et c'est peut-être pas si mal que ça. En tout cas, j'étais agréablement surpris par cette open catchesque qui était d'un niveau pas si mal. Par contre, Charlotte, la grande copine d'Asuka, ça sent le faux cul, mais bien comme il faut, quoi. Il me tarde qu'elle se foute sur la gueule.
Oui, ça, on va y venir assez vite, mais c'est vrai que tu as raison. Moi, ça m'a même échappé, en fait. Charlotte a rappelé que ses titres féminins tag team sont toute division, puisqu'elle a rappelé qu'elle-même, elle était devenue championne NXT là, ce printemps à WrestleMania. Et du coup qu'elles vont le défendre partout et à SmackDown elles sont prévues pour défendre pour la première fois leur titre, alors on sait pas trop contre qui, mais elles vont être à SmackDown. Et c'est vrai que j'ai plus le détail en tête, mais je pense que le règne de Shayna Baszler et Nia Jax s'est passé que à Raw, hein. Elles sont pas du tout allées à SmackDown de mémoire, hein.
Non, j'ai pas souvenir, justement on avait espéré qu'elles se baladent un peu sur tous les rosters, mais je crois qu'elles ont squatté Raw et tapé sur Lana.
Oui, ouais, c'est sûr. Oui, c'est vrai que ça occupe déjà pas mal. Mais je suis d'accord avec toi. Ça crée un petit peu de... Il y a du monde, quoi. Il y a une certaine compétition. Bon, elles jobent bien, les deux anciennes championnes, parce que pour faire passer Dana Brooke et Mandy Rose pour costaud, il faut y aller. Mais écoute, ça passe. Et je trouve qu'effectivement, cette petite tag team de blonde, elle s'en sort. Elle peut paraître sympathique.
Oui, et puis moi, Mandy Rose est à énormément de défauts. Dana Brooke, ça fait comme des années qu'elle est en... Elle est dans le bas de la carte, ben c'était marrant parce que Charlotte a rappelé qu'elle était montée avec elle, en fait. Parce qu'au début, de mémoire, elle était valet de Charlotte, c'était lui, Dana Brooke.
Ouais.
Mais par contre, ça a l'air d'être deux filles courageuses, donc qui ont l'air de vouloir faire le taf. Donc, si elles arrivent à faire quelque chose, je serais content pour elles.
Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. En tout cas, ceux qui ne sont pas très courageux. Mais on a l'habitude de les voir faire ça, hein. C'est le Hard Business qui parade avec ses nouvelles ceintures, qui vont un petit peu faire les gros bullies, là, les grosses brutes en coulisses. Ils croisent un mec qui a l'air de faire 12 kilos et demi, qui a un t-shirt du New Day. Alors il déchire son t-shirt, il lui donne un t-shirt du Hard Business. Le pauvre mec, il a l'air d'être triste comme on n'a jamais été triste. Mais eux, ils sont contents. Ils vont faire une petite séquence de VIP Lounge et de VIP Lounge de champion avec du champagne. Puisque voilà... Hein, Bobby Lashley est toujours champion. Il le dit d'ailleurs. Hein. Il dit moi, il n'y a pas un mec vivant qui me prendra ce titre. Donc voilà, peut-être un mec mort, l'Undertaker. Ou alors un mec pas encore né. Fils de.
Ou le Fiend.
Le Fiend ou le fils de Dean Ambrose, je ne sais pas. Enfin bref. Et puis voilà, ben, Bobby Lashley champion US. Cédric Alexander, Shelton Benjamin champion tag team. Du coup, ils font une photo officielle des champions. Il y a une photographe qui arrive sur le ring. Et ce qui est très très drôle, Kev, enfin moi je trouvais ça drôle, c'est que juste derrière eux, il y a R-Truth avec son titre 24-7 qui vient faire un petit photobombe. Ils s'en rendent même pas compte, le Hurt Business. Par contre, ils voient débarquer tout le Benny Hill Show là, du 24-7 qui court autour d'R-Truth, autour des sapins de Noël, puisqu'on est en déco de Noël, etc. C'est ces messieurs Titus O'Neil notamment Grand Metallic, tout ça s'en vont, et par contre les Hardy Bros, on va les appeler comme ça, ouais, Jeff Hardy et Matt Riddle débarquent, eux, et eux ils viennent parler, hein, ils viennent prendre le micro, Matt Riddle pour dire que ben voilà, on est dans un monde où on n'a pas besoin comme ça d'être des bullies, d'être des violents. Il faudrait être plutôt cool, plutôt chill. Jeff Hardy lui dit voilà, vous êtes à fond dans l'argent, le paraître, le statut, mais le plus important dans la vie, c'est quand même la valeur d'un homme, c'est sa fierté, c'est son énergie, c'est sa conviction. Donc ils sont là clairement pour défier un peu le hard business. Ils s'en vont, mais on peut peut-être directement aller au match hein, qu'on aura plus tard. Qu'est-ce que tu en dis ?
Vas-y, enchaîne. De toute façon, le micro de Jeff Hardy était vraiment pas passionnant. Hein. C'était confus.
Moi non plus, j'ai rien compris. Donc, on aura un match ensuite entre ces deux-là, mais pas les Tag Team Champions. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils affrontent MVP et Bobby Lashley. Enfin, intéressant. MVP qui catch en 2020, c'est peut-être pas très intéressant, mais bon. Matt Riddle commence par être très secoué par Bobby Lashley. Après, c'est Jeff Hardy qui reprend un petit peu l'avantage. Mais il tombe du turnbuckle, le dos sur l'escalier en métal. Je ne sais pas si c'était trop fait exprès. Il y a eu un petit flottement quand même hein, au Jeff Hardy. Il n'avait pas l'air d'être bien là. Bref, Jeff Hardy quand même se revient en forme. Il fait un whisper in the wind sur MVP. Matt Riddle fait une souplex sur MVP. Mais Bobby Lashley va chercher son chef. Il le ramène, il fait le tag. Et puis bah, au final, voilà, Jeff Hardy il rate une swanton bomb. Bobby Lashley il est vite, il est pris dans la Nelson et il tape. Jeff Hardy commence à faire déjà un paquet de fois hein, de mémoire qu'il tape sur la Nelson, Jeff Hardy. Donc Hard Business champion. On a très rapidement vu un interview de Xavier Woods et Kofi Kingston en coulisses qui disent qu'en gros bah, ils ont perdu, ils ont eu un mauvais soir, ça leur est déjà arrivé, ils regagneront, ça leur est déjà arrivé. Ils ont laisser sous-entendre, je dirais, que pour le moment, ils vont rester un petit peu tranquilles. Donc, du coup, ben voilà, Riddle, les Hardy Bros, tu y crois, toi ? Tu penses que ça peut faire des beaux matchs et que c'est une feud intéressante pour la première feud de ces champions ?
Je suis pas sûr, moi, parce que j'ai vraiment l'impression que Riddle est plus destiné à être en solo contre Lashley. Mais bon, l'avantage, c'est que du coup, avec Hardy qui traîne dans le coin, ils peuvent très bien jouer sur les deux tableaux, donc à la fois Tag Team et à la fois US. Donc, c'est. En tout cas, le Riddle, moi, je trouve qu'il est bien mieux depuis qu'il a des darons à ses côtés, quoi, qui permettent sur qui il peut rebondir plutôt que tout seul où il était un peu chiant, on va dire les choses comme elles sont. Et là, c'est quand même plus sympa à voir. Par contre, ouais, sur son futur, alors les Tag Team ou le championnat US, je ne suis pas encore sûr. Finalement, c'est bien. Ça laisse plusieurs opportunités pour ce garçon.
Ouais, sachant que là, ils ont perdu déjà contre ceux qui ne sont pas champions Tag Team. Donc, c'est un peu compliqué.
Ouais, donc pour ça, moi, je vois bien le titre US hein, quand même. Hein, parce que c'est Hardy qui prend tous les tombés.
Ouais.
Et c'est toujours Lashley qui gagne.
Ouais. Surtout que Lashley, ça fait un moment qu'il n'a pas défendu. Hein.
Yes, c'est pour ça. Et ouais. Les tag teams, il y a toujours les New Day qui traînent, ils ressortiront quand ils auront besoin de sortir. Tant c'est les magiciens de la division tag team, tu leur mets n'importe qui, quoi, n'importe quoi contre n'importe qui, et ils vont sortir un des matchs de l'année, donc j'ai pas de soucis là-dessus.
Oui, ça c'est sûr. Moi je suis un peu. Je pense que. Ouais, bon, c'est de la mi-card et tout ça, je sais pas trop, les fêtes du hard business. Après, je peux trouver du potentiel à l'idée de Hardy Bro, là, surtout qu'ils l'ont déjà dit clairement, hein. Matt Riddle, c'est un grand grand fan de Jeff Hardy. Par contre, tu vois, autant cet été là, quand il a été champion intercontinental, qu'il a eu ses matchs contre AJ Styles, contre Sami Zayn, je trouvais Jeff Hardy bon globalement. Autant là, je trouve que il y a eu le Symphony of Destruction là, il commence à me rappeler le Jeff Hardy tout raide, avec les genoux qui plient pas trop et puis qui prend des bumps pas très jolis là.
Je suis un peu inquiet pour lui. Ben, il n'est pas en bonne forme et surtout en fait ça va dépendre de cet adversaire en fait. Si tu as des Zayn ou des AJ Styles ou des Sheamus,
bien sûr,
les mecs quand même ultra expérimentés, ils vont t'aider à te cacher tes lacunes. Quand tu as Elias ou alors Lashley, il est bon, mais par contre il est bon pour massacrer quoi. Donc si tu bumps contre lui, d'un coup ça limite le truc quoi. Donc voilà, je pense que malheureusement Jeff, il n'est pas pire que Matt qui est vraiment en. On ne voit plus, heureusement, parce qu'il est vraiment plus du tout en état de catcher.
Ouais.
Mais il est pas loin quand même. Hein. On sent quand même qu'il a donné son corps à la science.
Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il retournera voir son frère. J'aimerais bien qu'il finisse sa carrière quand même là, parce que c'est un taulier de la WWE. Mais
Il n'arrêtera jamais, je crois.
C'est ça le problème. Il osera jamais arrêter. Il ira faire des piges partout ailleurs. Et pourtant, dans une tag team ou dans un truc un peu de mentor là avec un petit jeune, il pourrait avoir le truc. Mais il prend beaucoup de coups. Et ouais, tu sais, comme tu dis, j'aimerais pas. Je pense que quand il. Ouais, tu sais, on dit que quand. Il y a cette fameuse phrase là qui dit qu'à 50 ans ou à 60 ans, si tu te réveilles et que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Mais je pense que Jeff Hardy, depuis qu'il a 35 ans, il se réveille et il a mal quelque part. Hein.
Voilà, et c'est aussi pour ça qu'à une époque, je pense qu'il était pas mal camé, quoi. C'est parce qu'il est détruit de partout. Et en plus, ils ont commencé super jeune, Hardy. Hein, vu que si tu regardes les.
Ah oui.
Enfin, c'est début des années 2000, je crois, qu'il démarre. Hein, c'est cas-là. Mmh. Donc, ça fait 20 ans qu'il se ruine le corps dans le ring.
Ouais.
Voilà, ça. J'espère pour eux, effectivement, qu'ils vivront pas trop mal, mais. Bref, on verra bien.
Oui, j'espère pour eux qu'ils arrêteront, en tout cas, après qu'ils vieillissent leur fin de vie, je ne sais pas, mais qu'ils nous feront pas trop peine. Ils seront arrêtés à temps. Ouais, m'attardis un peu tard, je pense, mais c'est comme ça. Allez, on va pas trop y rester trop longtemps, surtout qu'on a un énorme segment qui arrive. Non, je rigole, c'est tout à fait faux. Drew Gulak affronte Angel Garza. Angel Garza, il est reparti dans sa gimmick. Il offre des fleurs à l'intervieweuse qui s'appelle Sarah, la petite blonde. Bon, il a arrêté.
Beurre, là, je sais pas quoi.
Il a arrêté Charlie Caruso, alors c'est dommage pour lui, mais ça nous laisse une chance à nous. Et voilà, le match commence. Il enlève son pantalon là, en le jetant sur Drew Gulak. Ça dure, tu vas me dire, mais je pense 1 minute 30. Il finit par envoyer un kick et son wing clipper. Et il bat Drew Gulak. Drew Gulak, il y a à peu près un an, faisait des matchs à jeu égal contre Daniel Bryan. Bon, c'est une mauvaise passe. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que Garza, tu crois qu'il. Qu'est-ce qu'on peut en faire, le potentiel, tout ça?
J'aime bien Garza, hein, franchement.
Moi aussi. Hormis
qu'il a un finisher pourri, son wing clipper, là, j'aime pas du tout. Faire tomber son adversaire sur le cul, j'appelle pas ça un finisher, mais il l'avait abandonné, il l'a repris. Bon, il doit y tenir, il y a peut-être une valeur sentimentale par rapport à ce finisher. 2 minutes 10 le match, en l'occurrence. Ouais. On va dire qu'il mise plus sur lui que sur, sur Drew Gulak. Hein. Mais voilà, que dire de plus, c'est la low card et pour l'instant ça n'a pas d'intérêt. Et voilà, je ne sais que dire de plus.
Ouais, bon, il n'y a pas non plus beaucoup à dire, hein. On verra, ils vont sûrement les construire dans les semaines à venir. Moi je suis un peu. Non, mais j'ai l'habitude, hein, voilà, fan de catch depuis quelques années maintenant. Il y a des phases et c'est sûr que ces mecs-là, low card, mid card, ils montent, ils descendent. Il suffit de trouver une bonne idée, souvent une bonne gimmick. Voilà, c'est un peu comme les personnages, un peu comme les Cody Rhodes, les machins. Des fois, ils ont des belles tag teams, ils ont des machins, ils ont des belles équipes. Des fois, ils plongent un peu dans la low card, dans le marasme.
Là, t'es encore un peu en dessous, quand même. T'es méchant avec Cody. Hein.
Ouais, c'est vrai. Je suis méchant avec Cody.
Comme il était champion et tout, là, me mélange pas les torchons et les serviettes. Hein.
Ouais, mais il y a un début.
Il va entre low card et low card plus, tu vois.
Ouais.
En début de carrière. C'est un miracle. Il trouve un jour un super truc, mais sinon il va jamais vraiment décoller, je pense. Hein.
Je sais pas, moi j'ai espoir. Là, par exemple, un match Drew Gulak-Garza, si on leur laissait le temps, je suis sûr que si on faisait une vraie feud et un match de 10 minutes, on pourrait avoir un super match, mais là c'était pas le bon moment. Mais Garza, ils ont l'air d'insister, ils ont l'air d'y croire. Après, il y a toujours ce mystère Andrade qui a disparu, on n'est pas trop sûr de savoir pourquoi, mais qui reviendra, j'espère.
Vu que sa femme revient, je pense qu'il va revenir aussi.
Bah oui. Bah oui, en plus, ils ont pas de gosse à garder, mais où? Bah ouais. Bah où? On verra bien. Et rentrant au Rumble, et il gagne le Rumble, tiens. C'est le moment de pronostiquer.
Là, c'est pareil, tu vois.
T'as du mal à y croire.
Ouais, j'ai du mal à y croire. Le pauvre Andrade, en plus, qui malheureusement n'a pas marqué de points en baragouinant durant toutes ces années à la WWE, et puis en n'étant pas inoubliable, hein, malheureusement. Moi, je l'aime bien. Tous ces gens-là, je les aime bien. Hein, Drew Gulak, ouais. Andrade. Mais il marque pas de points quand il faut les marquer. Donc, il reste assez loin, quoi.
Oui et non. C'est-à-dire, je sais pas, Drew Gulak, il a. Les deux, c'était à peu près au début de l'année. Là, Gulak en feud contre Bryan, moi, je crois que c'était vraiment, vraiment pas mal. Et il y avait une idée avec leur tag team. Et Andrade, il a quand même fait, on l'oublie maintenant, mais un gros post-WrestleMania, là, on les voyait tout le temps. Alors, est-ce qu'ils ont
pas. C'est Zelina qui faisait le truc. C'est Zelina qui faisait la braque.
Ouais, c'est vrai, mais bon, ils ont fait des contre Drew, contre les Street Profits, ils ont fait quelques beaux matchs aussi et tout. Puis avant ça, il avait eu sa feud contre Rey Mysterio, il y avait un truc, tu vois, mais
Ouais, je suis peut-être dur, ouais. mais voilà, oui. c'est des mecs où j'ai jamais l'impression qu'il y a eu l'étincelle. Après, peut-être parce qu'ils ont pas eu leur chance non plus, mais
ouais.
Ça ne pas avoir leur chance, c'est toujours un truc où je me méfie.
Oui.
C'est que généralement, les mecs qui n'ont pas leur chance, quand tu les mets ailleurs, bah, tu te rends compte qu'ils n'ont pas leur chance non plus. Donc, quelque part, c'est que le problème n'est pas forcément avec les chances qu'on leur donne.
C'est vrai, c'est possible. On verra bien. Ils sont encore jeunes, ceux-là, pour le coup.
Oui, oui. Franchement, ils ont une petite trentaine. Ils ont tout à fait le temps de se refaire.
Ouais. Bon, par contre, il y en a un à qui on a donné sa chance et qu'il a complètement raté la veille à TLC.
Eh bien,
nous arrivons au Miz TV, un segment de Miz TV où l'invité s'appelle AJ Styles. Alors, il croise Charlie Caruso, à qui il dit qu'en gros, il est furieux contre le Miz, mais qu'il va au Miz TV pour avoir un peu des explications. Donc, Miz TV avec John Morrison, évidemment, bien sûr. Miz TV amer. Hein. Le Miz, il dit, j'aurais pu être two-time champion, là, et j'ai raté. Voilà, c'est très très rare hein, de la part du Miz qu'il rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre. Là, mea culpa total, j'ai raté. Il dit à sa famille, je suis désolé, I am sorry. Il fait venir AJ Styles. Il nous dit, voilà, il y a d'autres excuses qui doivent être données ce soir. Alors moi, je m'attendais à une entourloupe hein, qui nous dise, c'est toi AJ Styles qui nous doit des excuses. Non.
Moi aussi.
Le Miz il s'excuse à AJ Styles. Il dit désolé, voilà. Mais bon, comprends quand même. Il y avait une grosse opportunité, j'ai tenté, t'aurais fait pareil. Moi, AJ Styles, il dit, mais t'es complètement con, t'es le plus grand idiot de la Terre, t'es incompétent, caché son Money in the Bank là, dans un TLC match, mais c'est débile, tu nous as fait perdre tous les deux. Et le Miz, il est hors de lui, il dit, mais tu crois pas que je le sais, tout ça. Enfin, il est hyper, il culpabilise à fond, le Miz. Hein, Il est très en colère contre lui-même, il est désolé, il dit ah, « j'ai tout raté, j'ai tout fait chier, personne ». Il va loin, lui. Pour le coup, il est sévère avec lui-même, parce qu'il dit « personne ne me respecte, personne ne m'aime ». Je suis de merde, j'avais l'occasion parce que tout le monde m'aime et me respecte, même toi, AJ, j'ai tout chié. Et donc, il propose, à AJ Styles de partager l'affiche du Marine 7. Et il nous montre l'affiche donc, du nouveau film de la franchise de Marine, où on voit un très gros Miz, un beau Almos et un petit AJ Styles. Donc, AJ Styles, il est un peu déçu d'être petit sur l'affiche. John Morrison, Eagle, d'être pas là. Ils se mettent tous à se disputer vertement. Enfin, surtout AJ Styles et John Morrison. Et Almos prend le micro. On entend sa voix pour la première fois. Et il dit à AJ Styles, en gros, ce mec-là, là, John Morrison, ne t'excuse pas auprès de lui. Là, c'est lui qui a fait son cash-in. C'est de sa faute. Et le Miz, il réfléchit, il dit, écoutez les gars, pensez à un truc là, il est pas con le grand Black là, hein, il a bien fait de l'ouvrir parce que c'est Morrison qui a fait le cash-in, qui a tendu la mallette à l'arbitre, et c'est pas moi, et alors que techniquement, c'est moi et moi seul qui dois le faire. Donc le Miz, il dit, voilà, j'appelle mon avocat, je demande officiellement qu'on me rende mon Money in the Bank. Voilà, il a réussi à trouver une faille là, un vice de forme, et il semble vouloir creuser ce point là, mais très vite, il est interrompu par Drew McIntyre qui arrive. On nous apprend que ce soir, en fait, Drew McIntyre, Keith Lee et Sheamus affrontent John Morrison, Le Miz et AJ Styles dans un 3 contre 3 Street Fight de Noël match. Donc, ça sera notre main event. Drew, il nous dit que, après TLC, il a fait la grosse fête justement avec Sheamus et Keith Lee. Ils ont picolé. Alors là, pas de problème. On fait un peu de brand naming, hein, du whisky, tout ce que vous voulez. Et puis, ils se sont rappelés du segment du Nightmare Before TLC, là, le segment du Miz de la semaine dernière. Et donc, eux, ils viennent avec un Nightmare After TLC et ils commencent à lire un poème, Drew. Et puis, on voit apparaître à chaque côté du ring et Sheamus et Keith Lee qui lisent aussi tour à tour ce petit poème. Pas inoubliable, mais en gros, voilà, pour se foutre de la gueule du Miz qui a raté son cash-in et que Drew, lui, il a réussi à gagner le match. Donc, Sheamus, Keith Lee, qui apparaissent en racontant gentiment leur histoire de Noël, se mettent à encercler le ring. Évidemment, ils montent sur le ring pour tabasser tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, Sheamus s'apprête à faire son broad kick sur, je crois, le Miz. Et AJ Styles, dans un geste de réflexe, il pousse Keith Lee qui tombe sur Sheamus. Du coup, il y a un peu de tension chez les gentils. Et on va garder quand même le main event pour la fin. Mais à plusieurs reprises dans la soirée, on croisera dans les coulisses... Sheamus et Keith Lee qui ont vraiment pas l'air d'arriver à s'entendre et Drew McIntyre qui est un peu obligé de faire juge de paix. Voilà, très longue description de ce segment, du coup je vais te laisser la parole papy, mais voilà, un Miz contrition, est-ce qu'on s'attendait à une telle remise en question de la part du Miz?
Non, alors je suis d'accord avec toi, le segment est très long, et c'est pas ta description qui est trop longue, c'est le segment lui-même qui était trop long, je pense. Et du coup, effectivement, comme les trois couillons sont avec leur petit bout de papier, là, j'ai trouvé ça... Alors, c'était sans intérêt, et je commençais déjà à piquer du nez face à la longueur du segment. Donc c'était assez malvenu, finalement, c'était cette fin de segment. Je pense qu'ils auraient pu s'en passer, surtout qu'en plus, le coup du « je te bouscule » et du coup, tu me pousses, et du coup, je suis pas content. C'est vu et revu, c'était pas franchement GG, quoi. Pour en finir aux mises, c'est effectivement, j'étais surpris. Comme toi, j'attendais à ce qu'il retourne le truc pour... accuser Gestal, c'est non, il a vraiment pris pour lui, mais c'était pour mieux nous retourner avec l'histoire du finalement j'ai pas fait mon cash-in. Alors je me demande si c'était juste un truc qui venait de nulle part et qui sera pas repris les semaines suivantes, mais si jamais c'est repris, c'est peut-être une bonne idée en fait, le coup du. Parce que là, franchement, je l'ai pas vu venir, j'ai jamais fait gaffe que c'était Morrison qui avait pris la mallette. Et on se disait, tiens, c'est surprenant que le Miz cache vite et perde sa mallette. Et ça serait, en tout cas, ça serait une. Enfin, moi, je trouverais ça pas mal s'il arrivait à re-récupérer sa mallette alors qu'il l'a déjà volée à Otis. Enfin, ça serait. Je trouverais ça serait pas mal en fait. Ça prouverait que le Miz, finalement, il est pas si con que ça, tu vois. Et ça redorerait un peu son blason et ça remettrait du suspense là où il y en avait plus. Donc, je trouverais ça pas mal. Le reste, comme je disais, c'est plutôt oubliable. Gna gna gna, tu m'as poussé, je t'ai poussé, on s'en fout, quoi.
Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le vrai, la star du show, c'était le Miz, et j'ai trouvé ça très bien pensé parce que autant à TLC, je l'ai dit dans la review, le Miz est quand même pas censé être un mec qui passe pour un con. Ça lui arrive parce qu'il a un peu cette gueule de tête à claque, mais il est quand même censé être un peu intelligent. Après toutes ces années à la WWE, il a réussi un cash-in déjà il y a 10 ans. Je trouvais que voilà, intervenir en plein TLC avec Almos aux abords du ring, c'était un peu l'idée à la con. Hein. Enfin, moi, j'aurais été à sa place, j'aurais largement attendu que quelqu'un décroche la mallette, redescende pour lui envoyer un coup de, enfin, décroche la ceinture, pardon, redescende et pour lui envoyer un coup de chaise et puis cash-in à la fin d'un match. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, là, j'ai trouvé que ça a donné un peu plus de corps, ouais, à son personnage de pas juste dire à AJ Styles, ouais, c'est ton garde du corps qui nous a fait perdre, c'est ta faute. Non, il a pris sur lui. Je pense qu'ils vont le garder parce qu'il l'a redit en coulisses après le Miz. D'ailleurs, il est juste avant le main event, il est au téléphone avec quelqu'un. Il veut avoir le USA Network pour dire qu'il veut sa mallette. Je suis partagé. Soit ils vont nous le dire, ils vont faire un truc du genre... Allez, le Miz, t'as un match contre, je sais pas qui, AJ Styles ou McIntyre, et puis si tu gagnes, tu récupères ta mallette, et puis il gagnera pas. Ou alors, il lui rentre vraiment, et il fait une deuxième tentative de cash-in, qu'il réussit ou qu'il réussit pas, mais ça écrira encore une fois sa légende de mec qui joue avec le USA Network, qui a ses appuis, qui a ses contacts. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Si c'est pour chier une deuxième fois, ça serait un peu dommage, mais...
Ça donne un bon fond au personnage, même s'il se rate encore une fois.
Ouais.
Pour le coup, ça sera un beau rattrapage à la mallette, quoi, parce que franchement, elle était mal barrée il y a 6 mois.
Ouais.
Si là, on a un cash-in en pay-per-view, un rattrapage de mallette, un match pour la gagner, enfin, elle aura quand même eu une belle vie cette mallette finalement, alors qu'on lui donnait la chair de sa peau il y a quelques mois, quelques semaines encore.
Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Et puis c'est vrai, moi je me souviens, oui, que c'est John Morrison qui l'a donné à l'arbitre, alors il faudrait que l'arbitre. Soit puni, alors si c'est lui qui a fait une erreur, qu'on nous montre un peu cet arbitre, mais il y a peut-être quelque chose à creuser, ouais.
Ça donnera de l'intérêt, ça donnera de la profondeur à cette histoire.
Exactement. Bon, on verra dans les semaines à venir, on va rester attentif là-dessus. On va passer à une histoire qui a peut-être un peu trop de profondeur, ça dure depuis un petit peu trop longtemps. Ricochet affronte le dernier membre. Et ouais, Ricochet, parce qu'il Ricochet, il se farcit tous les membres de Retribution un par un. Donc ce coup-ci, si vous avez fait le calcul, il lui reste à affronter T-Bar, le grand costaud. T-Bar, évidemment, la différence de gabarit est énorme, donc il le chope au sol, il le balance un petit peu dans tous les sens, il lui fait une énorme closest line. Bon, Ricochet, il a quand même le temps de passer à l'extérieur du ring, de faire tomber Slapjack, Mace et Mustafa Ali. Sauf que quand il revient sur le ring, il encaisse. Alors, c'est une sorte de GTS, là, un coup de genou dans la tronche. Et il perd le match. T-Bar gagne. Il gagne quand même un peu, les mecs de Retribution. Et ils viennent tous sur le ring, évidemment, autour du corps de Ricochet. Et T-Bar prend le micro pour lui dire ce gentil message d'amitié, pour lui dire « Ricochet, Retribution n'est pas ton ennemi, nous sommes tes alliés. Donc, rejoins-nous ou c'est la fin de ton existence. » Voilà, c'est plutôt sympathique comme invitation. Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, là, il ne peut plus faire autre chose. Il n'y a plus de membres de Retribution. Donc, ou alors, il affronte Reckoning. Tu veux voir ça la semaine prochaine?
Peut-être. Ou Mercedes Martinez qui reviendrait. Non, je veux qu'ils arrêtent. Après, je... Comment dire? Alors, le match a duré 2045. Hein. C'était pour moi au moins 2035 de trop. Les matchs comme ça de 2 minutes en low card, je comprends que ça arrive de temps en temps, mais quand c'est 2 low carders ensemble où tu n'as aucun avenir derrière, je ne sais pas trop quoi ça sert et ça se répète semaine après semaine. Alors, j'en viens me demander s'ils n'ont pas quand même une idée derrière, parce que ce n'est pas possible de faire ça toutes les semaines et sans aucun but. Là, c'est quoi déjà le dicton, c'est la folie quoi, de répéter tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vois, c'est
ouais.
Semaine, on fait un match de daube, c'est pas intéressant, mais on va refaire un autre match de la même façon. Donc, je pense pas que la WWE fasse tout ça tout le temps sans idée derrière la tête. Enfin, j'espère en tout cas, ou alors c'est qu'ils sont vraiment, vraiment fous. Mais par contre, si c'est juste pour dire que Ricochet à la fin il cède, je trouverais ça stupide. Enfin. On a eu exactement la même chose avec Alexander qui s'est fait tabasser par le Hurt Business pendant des semaines avant de les rejoindre. Quoi. Donc c'est pour faire pareil avec Ricochet, mais pour rejoindre Retribution. Sachant que Retribution, ils n'ont aucun intérêt dans l'immédiat, je ne comprendrai pas. J'ose espérer qu'il y a un coup de Trafalgar ou un truc magique qui arrive, je ne sais pas, moi, un mec qui arrive et qui reprenne Retribution ou... Je sais pas, ou que d'un coup il s'attaque à Drew McIntyre, ou enfin quelque chose, quoi, tu vois, qui. Mais là, il ne prend pas l'intérêt de ces segments toutes les semaines, quoi.
Ouais, bah, je suis comme toi, hein. Retribution, c'est. On a vite compris que ça allait être de la. Pas de la main event, et puis de la mid card, et puis de la low card, enfin ça n'a. Ça n'a pas d'intérêt. Puis comme tu dis, la 2020, j'étais en train de me dire, bon, on a eu Seth Rollins aussi, qui voulait. Déjà Seth Rollins il a fait un peu le même coup à Buddy Murphy aussi hein. Ils l'ont un peu tabassé avant de le faire intégrer dans l'équipe. Après ils ont essayé tout l'été de faire le même truc avec Rey Mysterio et Aleister Black en mode hey, joignez-nous, le greater good, tout ça. Le Hard Business a fait la même chose, la Retribution fait la même chose aussi, sans compter que bon, Retribution ou Rollins, il y avait peut-être une histoire un peu là, on n'a plus rien, quoi. Depuis qu'ils ont mis le feu au transfo électrique et qu'ils ont sorti la tronçonneuse, Retribution, ils nous ont promis, Ali arrive à faire des promos de très grande intensité au micro quand même, en nous disant qu'ils veulent affronter tout ce qu'ils nous ont dit, c'était fort, affronter la WWE sclérosée, nécrosée par le profit, par le vice, tout ça, ils veulent assainir, etc., son côté un peu genre flic qui a mal tourné, qui devient extrémiste, etc., ancien hacker et tout, puis bon, bah finalement là on se rend compte que ça fait 3 mois qu'ils sont là, voire plus, et ils ont l'air d'avoir aucune. Si leur seule ambition c'est d'intégrer Ricochet, en fait, le truc c'est qu'on a l'impression que si Ricochet dit oui, qu'est-ce qu'ils vont faire après Retribution? C'est quoi leur but?
Qu'est-ce qui se passe derrière là, les gars?
Est-ce qu'ils vont dire Ricochet? Ouais, est-ce qu'ils vont dire bon, ben maintenant on va essayer d'avoir Drew Gulak, allez, on va le tabasser 3 mois, et puis non, tiens d'ailleurs. Pourquoi pas une tag team Ricochet Drew Gulak, ça pourrait être rigolo ça.
Oui, mais... bien sûr, et Titus O'Neil et
voilà.
Je sais pas moi, et Chris Benoit. Et...
Non,
ça sert à rien. Non, mais arrêtez.
En Retribution, ça sera pas le succès de l'année, quoi.
Bah non, je pense. Alors, on en a parlé hier de TLC qui est probablement agrémenté nos tops. Je pense que Retribution va agrémenter nos flops.
Pourtant, il. Bon, ils mettent des efforts, tu vois. La caméra, elle trompe dans tous les sens quand ils sont là. Il y a une musique, il y a de la déco, il y a une sorte d'ambiance. J'arrive pas à savoir à quel point ils y croient, les gars. Peut-être qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on leur a dit, vas-y, allez, là, vous feudez un petit peu. Puis dans 2-3 semaines, on a prévu un truc, vous faites une invasion au Rumble ou je ne sais pas. Mais là, pour le moment.
C'est ça, non, mais ça se trouve, dans 3 semaines, t'as CM Punk qui débarque et il dit, et ben voilà, en fait, c'était moi le patron de Retribution. Et puis alors là, pouf.
Ouais. Moi, j'ai peur. Là. J'ai peur d'un coup, enfin pas d'un coup comme ça, mais j'ai peur que genre dans deux semaines, on nous dise juste Ricochet versus Mustafa Ali, si Ricochet perd et il joue en Retribution, si Ricochet gagne, Retribution dissous ou je sais pas quoi. Et puis,
Exactement, ouais. C'est. Alors, Retribution démembré et tout le monde enlevait son masque. Et voilà, et retournait tous à NXT, les gars.
Peut-être. On verra, peut-être qu'il y a un plan. On verra s'il y a un plan. On attendra. On saura pas ce soir, en tout cas.
Non.
Bon, en parlant de ceux qui ont eu une drôle d'année, concert d'Elias. Enfin, concert. Elias est là, avec Jackson Ryker à ses côtés, à nouveau. Bon, Elias, lui aussi, nous dit quelle année, hein. Il a gagné à WrestleMania. Donc, ça m'a pris un petit moment pour me rappeler ce qu'il a fait à WrestleMania. Est-ce que tu te souviens, papy?
Mais c'est pas... Alors, moi aussi, j'ai eu le doute, mais c'est... il a pas battu le Baron?
Si, c'est ça, il back in Corbin, là, je crois.
Ouais, je pense que de mémoire, c'était le top de WrestleMania, ce match.
Ouais, ça, c'était... Donc, ouais, il y avait ça. Il nous a dit que voilà, il a été percuté par une voiture et il a été électrocuté. C'est vrai que, quand même, grosse année hein, pour Corbin et pour Elias.
Bonne année de merde.
Bonne année de merde. Et, bah, il a un match ce soir. Enfin, il a un match. Il y a les Lucha House Party qui débarquent et, en fait, c'est Jackson Ryker qui va affronter Grand Metalik puisque la semaine dernière. Il a un peu éclaté le Luchador qui était passé pour le titre 24-7 et qui s'était pris un coup dans la tronche sans avoir rien demandé. Du coup, il y a un match. Elias, il s'assied sur le turnbuckle, il joue un petit air de guitare, il chante pendant le match. Ça donne une petite ambiance sympa, mais très vite, il tombe du turnbuckle à cause de la Lucha House Party. Sauf que Jackson Ryker, il en profite pour mettre sa signature, visiblement une sorte de grosse powerbomb... Ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, mais une sorte de une powerbomb. Et Jackson Ryker gagne dans un match à nouveau de low card qui a dû à nouveau durer moins de 2 minutes. Papy, tu me confirmes.
Même moins d'une minute, hein, c'est 55 secondes.
Ok.
55 secondes, mais par contre, à le noter, moi je préfère ces 55 secondes-là aux deux matchs de 2 minutes qu'on vient d'avoir juste avant, parce qu'on a quand même enchaîné que des petits matchs. Parce que là, pour le coup, tu vois, c'est le... Ah non, j'ai oublié aussi. Tiens, c'est marrant. Bref, on a. C'était comment dire? C'était un vrai squash. C'est un vrai squash où bah voilà, il s'est massacré. Le finisher pour le coup, j'en parlais tout à l'heure avec Garza qui est nul. Pas celui-là, c'est un espèce. Effectivement, ça commence comme un shock slam, mais ça finit comme un espèce de power bomb en.
C'est comme Spinebuster.
Ouais. Un Spinebuster power bomb, enfin un truc assez puissant et pour le coup qui est impressionnant quoi, comme finisher. Donc ouais bah ouais. Alors, j'avais un souhait quand Ryker rejoignait Elias, c'est que ce soit lui qui prenne le in-ring parce que j'avais un souvenir qui était plutôt pas qui avait de quelques moves pas mal et bah ça voilà au moins il a un beau finisher donc je suis pas mécontent qu'il catch ce garçon et voilà tu vois ça c'est plus la low card qui me plaît, ça c'est la low card qui va vite et puis qui est plus impressionnante et qui au moins se répète pas d'une semaine à l'autre.
Ouais, sachant que c'était assez drôle, hein, mais dans la très courte période des Forgotten Sons à SmackDown, il catchait pas du tout, hein, Ryker. C'était
dommage, parce que c'était certainement le meilleur.
Ouais, je sais pas, du coup, je te fais confiance là-dessus, j'ai pas trop de souvenirs de NXT ou autre, mais ouais, je suis d'accord avec toi, l'alliance me plaît bien, parce que Elias, c'est vrai que moi, son année 2020, alors lui, il la trouve un peu difficile, mais. Pour moi, ça a confirmé que... Ouais, hein, c'est notre ami Chris aussi qui disait quand la cloche sonne, c'est chiant, quoi. Il n'y a pas...
Bah non, mais c'est... il n'y arrive même... pas. Hein.
On peut même pas citer un bon match d'Elias, je pense. Hein. Ça doit faire quoi maintenant 3-4 ans qu'il est dans le main roster.
Ouais.
Ouais, il n'y a pas eu grand-chose.
Il a plus des segments marquants hors ring que in-ring, en fait.
Ouais.
Pourtant, il a 2-3 moves sympas dans le ring. Pareil, hein, il fait... enfin, quand il marche sur les cordes, tout ça, c'est comme... Alors, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais il a aucun liant dans ses matchs. Et ben, voilà. Puis en plus, il enchaîne pas mal de blessures pour un mec qui fait pas grand chose.
Ouais.
C'est quand même compliqué.
Ouais, et puis il est un peu. On va pas dire qu'il est handicapé par sa gimmick, mais bon, voilà, on va dire qu'un mois sur deux, il fait un match avec des guitares ou il prend des guitares sur le dos. Je trouve qu'il commence un peu à être stéréotypé aussi comme personnage.
Ah ouais, il a vraiment pas réussi à. Il a que ça, il a que son hors-ring en fait. Sa gimmick, c'est Walk de Weevil Ayas qui, mine de rien, marchait bien avec le public quand il y en avait un.
Ouais.
Et ben voilà, on en parlait avec Otis régulièrement, disant que bah, quand tu n'as pas le public, c'est compliqué. Bah, l'air, c'est pareil, hein, dès que tu n'as pas le public, bah, c'est plus rien derrière, il n'y a vraiment plus rien.
Ouais, mais c'est dommage aussi, je trouve qu'il y aurait. Alors, il a déjà un peu changé de style, puisqu'au début, il était un peu dark, Elias, tout ça, et là, maintenant, il a eu sa période un peu avec des chemises à fleurs hawaïennes et tout. Il a un peu changé de style physiquement, mais je sais pas, il faudrait. Je pense qu'au bout d'un moment, et on le voit, hein, il y a plein de catcheurs, que ce soit Bray Wyatt, Seth Rollins, enfin, qui changent un peu leur gimmick, qui trouvent une autre tenue, d'autres catchphrases, d'autres machins. Qu'il est un peu coincé dans le truc, et peut-être que l'arrivée de Riker va lui permettre d'ajouter, je sais pas, d'autres idées, d'autres cordes à son arc, d'autres machins. Mais en tout cas, ça relance l'intérêt. Et puis, ouais, ils vont faire peut-être en tag team. On peut cacher un peu les défauts d'Elias en tag team,
je pense. Ouais, et voilà. Le Riker, c'est un mec chevronné, je crois. C'est... Alors, moi, tu vois, je connais pas NXT, je regardais pas trop cette époque-là. Puis en plus, je crois qu'il catchait pas trop non plus. Mais moi, je connais plus de l'époque TNA, en fait,
Ah oui.
où c'était Gunner à la TNA, et où je l'avais trouvé pas mal à l'époque. Donc, c'est quand même un mec qui s'est débrouillé dans le ring. Effectivement, il servira de Sherpa à Elias, et puis advienne que pourra. De toute façon, ça peut pas être pire, vu où ils étaient tous les deux. Je pense qu'ils pourront faire, ça peut pas être pire.
Oui, oui, c'est sûr. Bon, on va sortir un petit peu de la low-card, ça te dit, papy?
Ah oui, enfin, parce que contrairement d'habitude, elle arrive très tôt, la low-card, là, et puis elle nous a tenu bien longtemps tout en bas.
Bon, il nous restera un petit peu de semi-low-card plus tard, enfin de la mid-card, mais là on arrive sur du très très haut niveau, puisque ben on revient sur le main event de TLC. TLC, je le rappelle, hein, n'hésitez pas à écouter notre review où on est 2, puis 3, puis 4. Je vous laisse le suspense sur nos invités, mais qui se finit donc par la mort sous nos yeux du Fiend qui a pris feu, Randy Orton, qui a affronté le Fiend sur un Firefly Inferno match. Bah, un peu déjoué tous les pronostics, puisque c'est lui, Randy Orton, qui est sorti vainqueur, qui a foutu le feu au ring. Donc on a un résumé de cette feud, et Orton arrive avec exactement la même tenue que la veille, avec sa veste à capuche, et nous dit voilà, ben depuis que je catch, on m'a qualifié de tous les noms, on m'a dit que j'étais twisted, demented, en gros fou, dément, taré, perturbé, psychopathe. Il dit ben ouais, je suis un peu tout ça, et la preuve c'est que brûler le Fiend vivant, j'ai kiffé sa race chaque seconde, hein, bien aimé, hein. Il se met à genoux au bord du ring, là, il dit voilà, ça s'est passé là, ça s'est passé à cet endroit. En plus, pour une fois, c'est vrai, puisque c'est exactement dans la même salle, hein. Des fois, à la WWE, quand il... avant le Covid, il nous disait ouais, ça s'est passé là, au milieu de ce ring. Bon, bah, ça changeait d'une semaine à l'autre, mais là, c'est vraiment le même endroit dans le Thunderdome. Il nous dit ouais, je ferme les yeux, je revois la scène, je sens les odeurs d'essence, de chair brûlée. Enfin, oui, il va fort, Randy Orton, hein. Il dit qu'il n'arrive pas à dormir parce que les fameuses voices, les voix dans sa tête, elles se sont tues maintenant. Elles se taisent. Maintenant, il n'entend plus que le souffle du Fiend qui pousse son dernier soupir. Et tout d'un coup... Ouais, ça fait peur. Et tout d'un coup, oui, il nous dit, voilà, le Fiend is gone, le Fiend est parti. Il dit, voilà, je suis le evil son of a bitch, donc le gros psychopathe taré de fils de... qui a brûlé le Fiend. Et là, les lumières s'éteignent. Les lumières s'éteignent progressivement, comme quand le Fiend arrive, là. Randy Orton, il a l'air très surpris. Il sort du ring. Quand les lumières se rallument, le Fiend n'est pas là. Par contre, au milieu du ring, il y a une balançoire. Il y a un petit animal... comment on appelle ça, une sorte de petite balançoire. Enfin, il y a un petit déco d'air de jeu. Et il y a Alexa Bliss au milieu du ring qui fait de la balançoire dans une lumière noire fantasmagorique. Elle rigole, Alexa Bliss. Et elle nous invite dans son Alexa Playground. Et donc, elle regarde Randy Orton. Elle se moque un peu de lui. Elle lui dit « Ah, tu t'attendais à qui ?» Tu lui dis « Ouais, ouais, tu l'as brûlé. Hein, tu l'as brûlé à cet endroit-là, effectivement. Mais le Fiend, maintenant, il est home. Il est à la maison. » Et puis... elle laisse sous-entendre que si jamais il revient, ça pourrait ressembler à rien d'autre que... Comment je pourrais traduire ça ? C'était... Ouais, voilà, si jamais le Fiend revient, ça sera quelque chose qu'on n'a jamais connu pour Randy Orton. Donc, elle le regarde droit dans les yeux avec ses yeux d'un blanc fixe. Et puis Randy Orton qui fait à peu près deux fois sa taille, la regarde un peu muet, sans trop savoir qu'est-ce qui va lui arriver et finalement dans quoi il s'est engagé. Donc les lumières s'éteignent, puis se rallument, comme d'hab avec les commentateurs, on passe au segment suivant, mais là on a eu une drôle d'ambiance qui est passée au Thunderdome là, pendant quelques minutes.
Ouais, bah c'est pas plus mal parce qu'en fait on en parlait en regardant TLC, mais voilà, le Wyatt, il fallait pas qu'il revienne l'air de rien dès le lendemain, ça aurait été un peu triste.
And so what?
Voilà, une sauvette. Et là, au moins, c'est Alexa Bliss qui va faire la transition. C'est pas plus mal. Alors, effectivement, Randy Orton avait vraiment l'air de flipper quand il a eu les lumières qui s'éteignent. Mais voilà, bon ça continue tranquillou. Il n'est pas sorti d'affaire, le brave Randy. Alexa va tenir le flambeau et puis on va attendre la mue de Wyatt vers son futur nouveau personnage, parce que il va forcément bouger quelque chose. Ce sera peut-être sur le film, mais ça sera peut-être un mec brûlé, j'en sais rien. Enfin, il va trouver quelque chose.
Ouais, peut-être le retour de du Yeti, là, de la momie, ce fameux personnage qui fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu connais je ne sais pas comment on peut la décrire, je ne connais pas trop l'histoire, peut-être qu'il y a des anciens parmi nous qui pourraient faire du fact-checking, mais je crois que c'est un personnage qui n'est apparu qu'un seul jour à la WWE, une espèce de momie entourée de bandelettes là, qui faisait 2m40 et qui faisait une sorte de Great Khali mais déguisé. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette
ouais,
vidéo.
Ah ouais, c'était à l'époque où il faisait des espèces de gimmicks qui ne marchaient pas du tout, là, les zombies, les machins. Ouais, c'est possible, ça, c'est possible. Ouais.
Donc peut-être un gros Bray Wyatt en bandelettes et en momie. Moi, je continue d'être... amoureux, impressionné, épaté par Alexa Bliss. Hein. Putain, elle aussi, on va en parler, mais alors, elle a quasiment pas catché de l'année, mais quelle année, hein. C'est.
Ouais, en fait, ça l'a sauvé un peu finalement, quand même, l'histoire du.
Ouais.
Parce que alors, ça marchait pas mal avec Nikki Cross. Elles ont quand même fait un petit peu de tag team, pas trop mal.
Ouais, elles étaient championnes.
Mais voilà, mais par contre, ça restait quand même assez bas dans la carte. Même si elles ont quand même été championnes, effectivement, là elles se relancent quand même. Donc, au moins elles se recréent un personnage. Alors, je sais pas ce qu'elle finira par faire parce que, mine de rien, c'est quand même, on le voit avec Wyatt, hein, c'est un personnage qui est vachement compliqué à gérer parce que, autant les segments hors ring, c'est facile. On peut laisser libre cours à ta créativité. Après, dans le ring, il faut savoir assumer derrière, quoi. Donc voilà, je me demande si elle va réussir à l'importer dans le ring de ce qu'elle fait hors ring. Mais en tout cas, elle a l'air de s'amuser. Et puis du coup, nous, on s'amuse aussi à la regarder.
Ouais, moi, je lui tire mon chapeau si j'en avais un. Clairement, elle a. Je sais pas, elle est basculée dans un statut, comme on disait là pour TLC, qui ajoute à sa légende. C'est-à-dire que là, la carrière d'Alexa Bliss, elle ressemble pas du tout à aucune carrière des autres filles du roster. Moi, c'est souvent les. Souvent en devenant presque autre chose qu'une catcheuse, que des fois les filles, un peu comme la regrettée AJ Lee, qui était manager générale et qui, à la grande époque, passait à travers des tables avec Daniel Bryan et tout ça, là, elle est dans la cour des main eventers et putain, elle en aura fait là cette année, hein, entre les moments où elle éclate en sanglots avec Nikki Cross sur le ring. Non, elle a l'air de s'amuser, d'être très créative dans son personnage. Je sais pas si ça serait une bonne idée de la remettre au milieu des autres filles pour des matchs féminins un peu classiques, je sais pas.
T'as raison, je sais pas du
c'est
tout,
casse-gueule.
Hein. Ouais, c'est casse-gueule, mais en même temps, en tout cas, là, c'est, voilà, on en parle souvent de ces quelques personnes qui sont comme ça. Elle fait partie des gens qui exploitent toutes les opportunités qu'on lui donne.
Ouais.
Et donc, je ne l'enterre pas tout de suite si jamais elle devait revenir dans le ring avec cette gimmick. C'est pas impossible qu'elle trouve la moyen de s'en sortir. Après, voilà, Alexa Bliss, c'est aussi pas la plus talentueuse in ring. Donc, quelque part, c'est pas plus mal qu'elle puisse aller sur un rôle, sur un personnage où elle peut plus miser sur la créativité du personnage que sur le in-ring, quoi.
Oui, non, elle nous a pas fait des très grands matchs. Mais bon, elle a déjà été championne plusieurs fois et je sais pas si... C'est peut-être, ouais, pour 2021, ça va la relancer aussi un peu catchesquement parlant, je ne sais pas, on verra bien, mais il y a des possibilités, quoi. Puis elle avait fait, il y avait eu des interactions sympas, là, quand, ben justement, la dernière fois qu'on a vu Andrade et Zelina, là, c'était quand ils avaient pris un double, Sister Abigail, c'était pas mal, quoi. Il y avait des trucs... bon, on verra bien, mais... Mais moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, ce passage avec la balançoire et tout. Je trouvais que c'était très réussi, là, visuellement.
Ouais, c'était pas mal, mais c'était, voilà, c'est une bonne suite de l'histoire.
Ouais. Bon, allez, on revient un petit peu à un peu moins de noirceur. On va passer rapidement sur l'avant-dernier match de la soirée. Je pense que c'était Peyton Royce et Lacey Evans qui affrontaient les nouvelles championnes tag team, c'est-à-dire donc Charlotte et Asuka, sauf que Lacey Evans et Peyton Royce, déjà, bon, elles sont peut-être un peu en faiblesse de base, et puis en plus, elles se disputent. Peyton Royce, elle fait une longue soumission à Charlotte, mais finalement, Asuka va intervenir. Elle neutralise Lacey Evans, et puis Charlotte, figure 8, Peyton Royce tap out, emballé, c'est pesé.
Ouais, bah, c'est pesé, bah, ça continue un peu à nous faire l'introduction de Charlotte, le retour de Charlotte. Le match a duré comme 8 minutes 20, comme mine de rien, pour un retour. Avec, j'ai trouvé comme une Peyton Royce qui est toujours pas mal dans le ring. Hein, elle est vraiment super. Enfin, par rapport à Lacey Evans, c'est comme le jour et la nuit. J'espère qu'un jour, elle aura l'opportunité de pouvoir montrer autre chose en solo, peut-être Peyton Royce, parce que là, on lui colle quand même souvent des boulets dans les pattes, hein, la pauvre. Et en plus, voilà, je trouve qu'elle a un joli finisher et tout. Donc, elle peut. Enfin, on parlait des filles qui pourraient un jour peut-être arriver pas au main event, mais aller à l'échelon en dessous. Je pense qu'un jour, ça serait pas mal de lui donner. De lui laisser tenter sa chance à ce niveau-là, quoi. Peyton Royce, on verra ce qu'elle donne. Mais bon, en tout cas, c'est pas du tout l'histoire du moment. L'histoire du moment, c'est Charlotte qui revient.
Ben ouais.
Et Charlotte qui est toute puissante. Et puis Charlotte qui se battra contre Asuka bientôt ou tard.
Ouais, mais les deux qui s'entendent bien, là, voilà, ça fonctionne, quoi. Ça, c'était pas juste la tag team d'un soir, ça va fonctionner encore un petit peu.
Oui, voilà, jusqu'à qu'elle repère les ceintures contre, je pense, Shayna Baszler et Nia Jax. Je mettrai une grosse pièce dessus. Je suis même pas sûr que ça attende le Rumble.
Ouais, peut-être. Bah, vu qu'il n'y a pas beaucoup de tag team féminine, hein, c'est ce qui s'est souvent passé ces dernières années. Hein. Bah, justement, on parlait de Cross et Bliss, je crois qu'elles l'ont gagné deux fois ou plusieurs fois, et puis les Iconics aussi, qu'on a ressorti un moment du formol, enfin, ça revient, les challengers, et ça regagne assez vite, ouais. On verra bien. Écoute, papy, nous sommes au main event.
Déjà ?
Eh oui, oui, déjà, il s'est passé quand même beaucoup de choses hein, dans ce Monday Night Raw. Mais ça y est, on y est, on a tout réglé, il nous reste à voir ce fameux Street Fight de Noël entre Sheamus, Keith Lee, Drew McIntyre, contre AJ Styles, John Morrison et The Miz. Alors, assez tôt dans le match, Sheamus et Keith Lee, ils travaillent en équipe, ils sont copains, ils arrivent à se prévenir l'un l'autre quand ils se font agresser, donc ils sont contents. Ils se mettent des petites claques sur l'épaule en disant « Ouais, bien joué !» Et l'autre, il remet une claque plus forte. « Ouais, ouais, bien joué !» L'autre, il remet une claque encore plus forte. Il dit « Ouais, bien joué !» Ils montent un peu dans l'escalade virile, ils finissent par quasiment se mettre sur la gueule. Donc Drew, il dit « Non, du calme. » Drew, il fait un petit peu la Suisse, là, les Nations Unies, il essaye de calmer ses copains. Ensuite, Sheamus et Drew McIntyre, qui eux sont copains, ils font un petit 10 beats sur la poitrine du Miz et de John Morrison. Il les envoie à Keith Lee qui attrape les deux au vol. C'était assez impressionnant quand même. Il attrape le Miz et Jomo au vol à l'extérieur et il les écrase contre les barricades. Il les balance dans les cadeaux de Noël, puisque oui, il y a du décor, évidemment, c'est Noël. Qu'est-ce qu'on fait ? John Morrison fait tomber Sheamus depuis le turnbuckle sur une table de Noël sur laquelle il y a des biscuits, des petits trucs comme ça. Donc les méchants vont ensuite longuement travailler l'Irlandais dans son coin. Sheamus réussit à placer un white noise sur AJ Styles pour ensuite faire taguer le Drew McIntyre. Drew, toujours hyper classe, il arrive, il envoie des souplexes au Miz à John Morrison. Alabama Slam sur John Morrison qui l'envoie catapulter le Miz. Bref, il y a ensuite une grande séance de bordel comme on a l'habitude dans ces tag teams où chacun donne un coup à un adversaire qui se fait prendre un autre coup, etc. Un peu une série de finishers. AJ Styles sort un kendo stick en forme de couleur, comment on appelle ça là ? C'est du sucre d'orge là, puisque c'est Noël. Ils se tabassent un petit peu tous avec. Il y a encore Drew McIntyre qui prépare un Claymore Kick sur le Miz. Il est là, il compte 1, 2, 3, mais Sheamus vole le tag. Sheamus fait « Allez, c'est mon tour », il prépare son Brock Kick, mais sauf que Keith Lee, hop, il vole le tag et place sa Spirit Bomb sur le Miz, pardon, et pour obtenir la victoire. Avant ça, il y avait un petit segment drôle où Keith Lee avait envoyé John Morrison à l'extérieur dans les bras de Almos. Du coup, John Morrison était tout content et pensait qu'il était sauvé. Sauf que Almos lui a aussi fait passer John Morrison à travers la table. Là, il n'a pas digéré le segment micro du début de show. Donc les gentils ont gagné, très bien. Il est content, Drew avec ses copains. Sauf que Sheamus, il finit par foutre un gros brock kick dans la tronche de Keith Lee. Et on sent que Drew, ouais, il est pas trop du côté de son copain de toujours là. Il dit bah, il avait gagné le match quand même. Merde, tu fais chier, putain, tu nous as un peu gâché la fête. Bon, est-ce que la fête est gâchée, Sheamus, moi je le sentais bien faire un petit face turn, il m'avait l'air sympathique, mais il a vraiment envie de rester heel, hein, on dirait.
Ouais, c'est le naturel qui revient au galop, c'est une bête sauvage en fait, Sheamus. Drew a beau dire qu'il a tout fait pour le défendre et qu'il est déçu et qu'il ne comprend pas pourquoi il a fait ça, bah, il devrait le savoir, quoi, que Sheamus, bah, c'est son instinct naturel en fait, de bête sauvage, de finalement exploser contre Keith Lee qui le cherche depuis des semaines, comme à lui pourrir la vie, à dire qu'il fait pas confiance, que c'est un salaud, que si, que ça, là il lui vole le finish.
Enfin, ah ouais, toi t'es plutôt Team Sheamus, là t'es plutôt une bête sauvage.
Moi, Team Sheamus, et moi franchement je suis bien content qu'il ait foutu son brocoli sur la tronche de Keith Lee. Il le méritait depuis quelques semaines. Et moi, à la place de Drew, j'aurais mis une bonne tape dans le dos à Sheamus en disant « Bien joué, mon coco !» Il le méritait, ce Keith Lee, là, qui cherche les embrouilles. Non, mais oh, attends, c'est qui le main eventer, là? Mais voilà, en tout cas, le main event de quasiment 10 minutes, qui fait 17 minutes 55 secondes. Donc, gros main event, en mode effectivement Noël, avec des cadeaux, des machins et des sucres d'orge. Bon, il y avait des petits passages fun et tout. Bon, je pense que c'est un truc qui marche bien pour le public. Bon, sans public, forcément, on se répète, hein, mais ça gâche toujours un peu le truc.
Ouais, mais c'est après, pas voilà, too much.
Ouais, ils ont du coup, bah, forcément, hein, que si je crois que t'as quand même AJ Styles qui finit dans la fameuse egg soup, tu sais pas quoi là, le truc aux œufs. Mais ouais, après, voilà, c'est. Ils finissent quand même sur Sheamus. Ils rattrapent un petit peu comme d'histoire, histoire de lancer la suite. Mais c'était gentil comme main event. Hein.
Donc pour toi, là, on est bon. On est Noël, on est main event, un peu cadeau de Noël, 3 contre 3, tout ça classique. Mais vu ce qui s'est passé à TLC et tout, pour toi, la suite, ça serait là, Sheamus, challenger pour Drew de suite, là.
Ben, j'en sais rien, en fait. Parce que...
Difficile, hein.
Sheamus, je reste persuadé que Keith Lee est pas net dans ce qu'il fait. et donc peut-être un match de challenger numéro 1 entre Keith Lee et Sheamus et voir ce que ça donne, quoi.
Mm. Ouais, de toute façon, c'est difficile à dire parce que le Miz il a pas fini ça, il a pas dit son dernier mot. Et du style difficile à dire vers quoi il va se positionner. Peut-être qu'on va avoir une feud de Miz Styles, je ne sais pas, mais là pour le coup on est dans une configuration, c'est ce qu'on avait déjà dit les semaines passées, mais où on sent qu'il y a beaucoup de monde autour de Drew, quoi. Autant à SmackDown, on a l'impression que Roman Reigns il fait peur à tout le monde sauf à Kevin Owens, autant là il y a du challenge, les amis, les ennemis, tu vois, et même AJ Styles avec le Miz et Morrison, ils sont pas tout à fait clairs, loin de là. Donc en gros, il y a pas d'amitié. Tout ce qu'on veut, c'est finalement le titre au bout. Et j'aime bien, moi, ça fait une vraie ouais, voilà, il y a de la compétition, quoi.
Il y a du monde dans le haut de la carte.
Ouais, il y a du monde.
Effectivement, il donne du temps à pas mal de gars pour s'exprimer, pour se développer, et puis bah, pour paraître de bons challengers, en fait. Effectivement, comme tu dis, Morrison moins, parce que Morrison, c'est vraiment le gros débile.
Ouais.
Mais le Miz, AJ Styles, Sheamus et Keith Lee, t'as déjà 4 gars qui seraient pas déconnant autour de Drew pour chercher la ceinture, quoi. Pas pour la prendre peut-être, mais en tout cas pour au moins batailler pour l'avoir, quoi.
Ouais, non, il y a de quoi faire. Après, c'est compliqué. On est toujours dans une période là où déjà le prochain pay-per-view, donc le Royal Rumble, est loin. Hein. On va avoir, à mon avis, des matchs pour le titre et pour les challengers qui vont avoir lieu. Hein. Déjà d'ailleurs. Bah, écoutez la review du futur SmackDown et on va le regarder parce qu'on nous annonce quand même un rematch entre Kevin Owens et Roman Reigns dans un Steel Cage match. Donc on a quand même un match pour le titre mondial. Il y a aussi Sami Zayn qui affronte Big E pour le titre intercontinental. Donc cette période de Noël, de janvier, là, il va se passer pas mal de choses. Après, bon, ben voilà, le prochain pay-per-view, il y aura des matchs pour le titre, mais le Rumble match va être quand même un gros enjeu. Et là, on a des clients, hein. Enfin, Kifli, moi, je le mets sur. Peut-être pas mon top favori des vainqueurs, mais à mon avis, dans le top 5 de ceux qui ont le plus de chances de le gagner, ce match-là, le Rumble. Peut-être qu'il est un peu green et je suis pas sûr que toi, tu sois fan, mais j'ai l'impression qu'il capitalise. Hein.
Ouais, je pense que c'est un. Il a un physique tellement particulier que.
Tu dis
que n'importe quand il peut arriver en main event et ça fera pas tâche, ça fera jamais tâche parce qu'il a son physique en fait pour lui. Mais en fait moi voilà, si je devais miser sur une révélation au Rumble, je miserais plus sur Rhea Ripley que sur Kifli. Si on en est déjà de nos pronos un mois à l'avance,
non, on n'est pas encore.
Mais moi je te dirais Edge, moi personnellement.
Ah ouais.
Normalement, sa blessure devrait être terminée d'être guérie là. Mais par contre, Edge, ouais, c'est con parce qu'Orton n'est plus du tout dans le titre. On ne sait pas. Il y a tellement de choses, tellement de mystères qu'on attend de voir. À un moment, je pensais Big E, mais je pense que là, il n'est plus du tout la hype qu'il avait il y a quelques temps. Et du coup, là, je pense que ça sera vraiment trop loin pour lui.
Ouais, bon, bah évidemment, on en reparlera et puis on en parlera avec vous, hein, les amis. N'hésitez pas, on va en parler du Rumble qui arrive. C'est toujours le moment excitant du début de l'année. Moi, je me dis, Kifli, ils peuvent pas le rater, mais ce qui me fait peur, c'est Braun Strowman un peu. C'est-à-dire que Braun Strowman, quand il est arrivé à la WWE, je trouvais qu'il avait. Enfin, c'est pas je trouvais, c'est un constat, c'est qu'il y avait vraiment une grosse hype. Enfin, ce mec-là était immense, gigantesque et tout. Et en fait, ils ont tellement traîné avant de lui donner un Rumble, un titre, machin, qu'au final, au moment où il a eu un peu son moment de gloire cette année, bon, déjà, il a prouvé que dans l'acting et tout, il a eu un peu de mal. Mais bon, une feud contre Bray Wyatt, c'était compliqué. Ça demandait beaucoup d'acting et pas tant de catch. Mais au final, au moment où il est devenu champion du monde, il est très crédible. Hein, Braun Strowman, il est énorme et il peut devenir challenger en une seconde. Mais il a eu tellement de carrière un peu à la Big Show, à être face, heel. À faire des trucs à la con, du style dans une poubelle avec Sami Zayn, dans une décharge, dans un machin, que je me dis, Kifli, bon, ça fait peut-être un peu tôt pour qu'il gagne le Rumble et qu'il soit challenger là dans 2 mois de Drew, mais vu le physique du mec, faut pas non plus attendre 4-5 ans à lui faire rien, quoi. Et bon, on verra, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai que là, le choix, le Rumble, des fois, il vaut mieux être dans le Rumble match que le challenger au titre suprême ce soir-là, parce que souvent on oublie assez vite, hein. Tu vois, il y avait l'an dernier, donc c'est Daniel Bryan contre le Fiend au Royal Rumble, on a un peu oublié quoi tout ça, hein.
Ouais, après voilà, c'est le mec de transition, et du coup je vois cette place là pour Kisly.
Ah ouais, moi j'avais plus pour Sheamus, tu vois.
Un premier shot à Drew, qui sera un truc de transition un peu, et puis l'an prochain, peut-être le mettre en favori du Rumble, mais après, pourquoi pas, hein, sincèrement, c'est pas non plus un jeune premier, même si ça fait peu de temps qu'il a WWE, il est quand même pas mal bourlingué sur le circuit indépendant. Ils peuvent tenter leur chance tout de suite, hein. Regarde Nakamura, ils avaient tenté leur chance assez vite avec lui.
Ouais.
ils lui ont pas donné le titre, hein, donc je ne m'interdis pas de le voir gagner, en tout cas, plus lui que. C'est sûr que. Quitte à voir un jeune l'emporter, ça sera plus lui que Riddle. Hein.
oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'on a envie de voir. En fait, est-ce que. Je pense qu'on a tous envie de voir une fois de Sheamus Drew, là, les copains qui se mettent un peu sur la gueule. Est-ce que ça vend, par exemple, WrestleMania, ou est-ce que pas quand même et c'est un peu avant? Je sais pas. Moi, ça m'irait, hein, pour WrestleMania.
Ouais. Mais ouais, ça m'irait aussi. Après, on est déjà en train de se dire que Drew ne sera pas le main event de WrestleMania, en fait, avec ça. Fait que ce soit Sheamus, que ce soit Kifli, etc. Ouais. C'est des mecs pour le match, le second match pour le titre, tu vois. C'est pas lui que tu vas foutre en main event.
Ouais, c'est vrai. Mais bon.
Après avoir, on n'est pas à la bonne surprise. Il y a des mecs comme ça qui sont. Sont révélés en quelques semaines, on peut très bien avoir un Kifli Hill qui explose tout d'un coup, qui devient le monstre que n'a pas été Strowman, justement. et puis qu'on se dit, putain, on veut le voir à Main Event, ce mec.
Ouais. Hey. Bon, ben, on verra bien, on n'y est pas encore, mais voilà, on a fini sur un petit moment de Noël, comme on a souvent, et puis on aura le SmackDown de Noël qui va envoyer du bois, donc on reste connecté. Mais avant ça, papy, ben voilà, comme tu prépares toujours bien tes notes, je n'ai aucun scrupule à te demander ton mot de la fin, top flop note sur ce Monday Night Raw de Noël. Je t'écoute.
Ouh là 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 là, j'ai préparé. Ouh là là, j'ai préparé. Hein.
Ouais. Pff,
le flop, allez, le flop, je vais faire, je tirais sur l'ambulance qui est à terre et je vais tirer sur Retribution de Ricochet parce que j'ai déjà dû leur donner plusieurs fois le flop, mais je continue parce que vu que la WWE continue à nous le mettre, bah moi je continue à mettre des flops.
On verra qui se passera en premier.
Voilà, exactement, c'est ça. On verra qui est le plus fort entre nous deux à insister. Au niveau du top, j'ai pas trop de trucs énormes dans ce Raw. Il était quand même assez neutre comme show, que ce soit dans les divisions féminines. Ah si, allez, tiens, je vais donner un top qui n'arrivera peut-être jamais plus. Je vais donner le top à Mandy et comment elle s'appelle,
Dana Brooke.
Pour leur tag team rafraîchissante et puis voilà, un opener de 12 minutes pour ces filles-là, c'est très rare. Et puis je trouve que bah pour que voilà, elles se battent et puis voilà, je les encourage, ces filles, allez-y, essayez de faire de votre mieux, je suis fier de vous.
Ah, et ta note?
Et ma note, je vais mettre un 2,5 parce que c'était pas bon, c'est pas mauvais, c'était neutre.
Ok, bah écoute, moi je vais être un peu plus enthousiaste que toi. Je vais mettre un 2,75. Beaucoup de choses, bon, truc ambiance de Noël. On a revu des gens qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, bon, dans des squash matchs, pas forcément terribles, mais ça m'a donné un petit côté fin de cycle, là, enfin début d'un nouveau truc. Mon top, moi je vais le donner à Alexa Bliss et Randy Orton. Là, j'ai bien aimé ce segment quand même. J'ai trouvé que j'étais vraiment très, très, très. Dubitatif, un gros point d'interrogation sur ce qu'ils allaient pouvoir dire, raconter et donner comme suite après le feu de Bray Wyatt. Et je ne sais pas du tout ce que ça va apporter encore dans les semaines à venir, mais j'ai trouvé ça bien. C'est-à-dire que Randy a vraiment en gros lâché le monstre en lui, comme il l'a déjà fait plusieurs fois, mais voilà, il n'a plus rien à foutre de rien, il brûle des gens, il s'en fout. Et face à lui, heureusement, il y avait ce personnage créé depuis plusieurs mois d'Alexa Bliss qui a eu du répondant, et j'ai bien aimé ce moment-là où on sombrait un peu dans la noirceur de l'âme. Mon flop, je ne sais plus trop ce que j'ai mis moi les semaines précédentes, j'essaie de changer. Je vais le mettre à Nia Jax et Shayna Baszler parce que comme tu l'avais déjà fait remarquer avec leur blague de mettre Lana, lui mettre des seins dans le dos ou je sais pas quoi, j'ai trouvé que. Encore une fois, en opener, là, ils ont fait je sais pas quoi. J'étais en train de m'en souvenir là tout à l'heure d'une blague sur la wishlist de Noël, du Père Noël. Enfin, ils essayent toujours de faire des clashs un peu pourris, surtout Nia Jax. Ouais, allez, juste à Nia Jax, mon flop. Voilà.
C'est ouais, ils ont un humour vraiment mauvais. Hein.
Yeah. Ouais, bof, grave-le, nul. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont dit.
Hein. Elles sont fières en plus à chaque fois. À chaque fois, elles sont fières, ouais. Et j'ai l'impression que le mec qui leur écrit les blagues est fier aussi parce qu'à chaque fois, il les filme bien. Enfin, il dit allez, zoomez-les, là, attention, ça va être. Ça va être la punchline dont on va s'en souvenir dans 10 ans. C'est parti.
On s'en souviendra parce que c'était le flop. Voilà.
Mérité.
Mérité. Merci, papy. Bah écoute, ça fut un plaisir d'avoir été avec toi, à tes côtés pour ce Monday Night Raw et puis avec tous nos auditeurs. Donc n'hésitez pas à nous donner vos fact-checking, vos avis, vos opinions et tout ça. Bah, donc vous pouvez nous écouter sur. Google Podcast, pardon, Apple Podcast, Spotify, Ocha, en version audio, en version vidéo sur YouTube. Et là, vous pouvez laisser des commentaires, des avis, des opinions. N'hésitez pas. Sinon, venez nous les raconter sur le Discord Catch-Up. Mais en commentaire, c'est bien. Ça fait du référencement. C'est cool. On est content. Ça serait un beau cadeau de Noël. Twitter, Facebook, Instagram, Catch-Up CDC. Je vous laisse à vos réseaux sociaux. Je vous laisse à votre semaine de Noël. Profitez bien, prenez soin de vous et de vos proches, ouvrez les cadeaux, laissez un petit cookie au Père Noël, et puis ben voilà, n'envoyez pas trop vos amis, vos opposants dans les paquets cadeaux, dans les sapins et dans la soupe de Noël. Laissez ça à la WWE, ne faites pas ça chez vous, comme on dit. Et puis papy, ben, je te remercie d'avoir été à mes côtés, et puis on va continuer dans les semaines à venir, hein, l'équipe tient debout.
Oui, exactement, merci de ton invitation, et à nouveau, comme toi, je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et n'hésitez pas, voilà, exactement. Si jamais le cadeau ne vous plaît pas, une petite corde à linge dans la tronche, ça fait toujours plaisir.
Voilà, un petit peu de violence. On sent que papy, il veut libérer la bête. Et ben voilà, je libère la bête, papy. Je te laisse à ta maison de retraite. Allez, ciao à tous.
Salut à tous. Bonne fête de fin d'année. Bon réveillon.
Oh, oh, oh.
C'est en vert. Ah non, merde, c'est pas ça.